C'est le 6-9 de l'été, mercredi 24 juillet 2019. Bonjour à tous et bonjour Laurence Thomas.
Bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, Laurence, l'État qui va puiser dans le budget d'Action Logement pour renflouer son budget 2020. Les autres titres.
La loi bioéthique en Conseil des ministres aujourd'hui. Nous nous arrêterons dans ce journal sur le problème d'une éventuelle pénurie de gamètes avec ce texte porté par trois ministres du gouvernement. Boris Johnson, nouveau Premier ministre britannique, le pire cauchemar de Bruxelles. Canicule et conséquences chez les oiseaux. Ils souffrent de la chaleur, mais pas seulement. En plus, ils ont faim, pas assez de nourriture à cause de la sécheresse. Les Jeux Olympiques d'été, c'est dans un an au Japon. Et de nouveaux sports font leur entrée dans la compétition, et notamment le skateboard.
Les invités de France Inter ce matin. À 8h moins le quart, le député LR Guillaume Larrivé. Et à 8h20, la ministre de la Santé Agnès Buzyn à propos de cette loi bioéthique présentée aujourd'hui en Conseil des ministres. Vos questions dès maintenant sur franceinter.fr et au 01 45 24 7000.
France Inter. C'est presque devenu une habitude à Bercy. Pour boucler ses fins de mois difficiles et rester dans les clous du budget, le gouvernement ira puiser l'an prochain dans les réserves d'Action Logement, ce fonds alimenté par les entreprises de plus de 50 salariés, une béquille régulière de la politique publique du logement. Action Logement se verra donc prélevé de 500 millions d'euros, car pour faire des économies, le gouvernement a préféré puiser dans ce 1% logement plutôt que de tailler davantage dans les niches fiscales. Claire Chaudière.
Pour boucler le prochain budget, une ponction d'un demi-milliard d'euros sur la trésorerie d'Action Logement a bien été actée, confirme une source dans l'entourage de l'ancien 1% logement. Source qui résume, c'est l'argent destiné au logement des salariés qui va colmater les trous budgétaires après les mesures gilets jaunes. Un effort demandé par le gouvernement alors qu'Action Logement vient justement de publier son bilan, chiffré à 83 milliards d'euros, montant qui n'aurait pas laissé Bercy indifférent selon nos informations. Une mission de l'IGF, l'inspection générale des finances, vise d'ailleurs depuis quelques jours la gouvernance du fonds patronal. Le secteur du logement est décidément fortement mis à contribution année après année. Ce nouvel arbitrage vient s'ajouter notamment à la baisse des APL, aux coupes budgétaires dans le logement social et à la réforme en 2020 du mode de calcul des aides au logement.
Claire Chaudière sur France Inter. Il est 7h02, c'est le grand jour pour la première grande réforme sociétale d'Emmanuel Macron.
Et il aura fallu une longue gestation pour cette promesse de campagne du chef de l'État. Le projet de loi bioéthique sera présenté ce matin en Conseil des ministres pour un examen à l'Assemblée à la rentrée. Une mesure emblématique, l'ouverture à la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes et plus seulement pour les couples hétérosexuels stériles ou qui risquent de transmettre une maladie génétique. Autre mesure dans ce texte de loi bioéthique, l'accès aux origines sera rendu possible à 18 ans. L'enfant pourra avoir accès soit à des données non identifiantes, c'est-à-dire l'âge du donneur, ses caractéristiques physiques ou autres, soit carrément à l'identité du donneur si c'est son choix. Un accès aux origines qui pose cependant le problème des stocks actuels de gamètes, comme nous l'explique Stéphanie Krislik de l'association de patients de l'AMP et de personnes infertiles.
Ce qui est actuellement prévu au projet de loi, c'est que les anciens stocks de gamètes soient détruits parce que les donneurs qui ont donné à un instant T n'ont pas consenti à cette levée d'anonymat. Et nous, on trouve ça révoltant puisqu'il y a déjà actuellement une pénurie de gamètes en France. Donc si on ouvre l'accès à la PMA à différentes personnes, il va y avoir une augmentation des demandes de dons. Et parallèlement, on va diminuer les gamètes proposées puisqu'on va détruire les stocks. C'est tout simplement inadmissible. Okay. Nous, ce qu'on préconise, c'est que les SECOS et les centres d'AMP contactent les donneurs qui sont concernés par des gamètes qui sont encore en stock au moment de la promulgation de la loi pour recueillir leur consentement ou pas. Donc si les donneurs sont d'accord pour donner malgré la levée de l'anonymat, eh bien du coup, les gamètes peuvent être données. Et ceux qui sont contre, effectivement, elles seront détruites.
D'autant que l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, qui, rappelons-le, sera remboursée intégralement par la Sécu, cette ouverture de la PMA à toutes les femmes, ce sera environ 2000 cas supplémentaires sur les 15 000 PMA actuels. Le CETA, ratifié dans la douleur hier à l'Assemblée, ratifié à une courte majorité, droite et gauche ont voté majoritairement contre le traité de libre-échange avec le Canada, mais pour la première fois, 9 députés de La République En Marche ont joint leur voix à l'opposition. C'est une première dans un groupe souvent qualifié de groupe de godillots, mais plus qu'une fracture de la majorité, ce qui a joué pour le CETA. Ce texte qui supprime notamment les droits de douane sur 98% des produits échangés entre le Canada et l'Europe, ce sont les vifs échanges, les vifs débats de la semaine passée. Au cours des 10 heures de débat, plusieurs élus s'étaient inquiétés, notamment de l'importation de viande nourrie par des farines animales interdites en France. Et ce CETA, eh bien, il a été voté le jour où la jeune Greta Thunberg était venue rappeler l'urgence climatique. La jeune fille, elle aussi, divisée, les députés LREM, Laurence Perron.
Si Greta Thunberg a pris bien soin de ne pas mettre un doigt dans la controverse CETA, tout le monde s'en est chargé pour elle, à commencer par le secrétaire d'État à l'Europe et aux Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne.
Mais moi, j'ai écouté attentivement Madame Thunberg. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle n'a pas d'opinion sur ce traité. Alors, ne nous faites pas choisir. Oui à Greta, oui au CETA.
Rien n'y a fait pour Sandrine Lefeur, députée La République En Marche du Finistère. Elle a voté contre.
Oui, moi je suis toujours agricultrice en bio. Il faut savoir que j'avais déjà une position sur cet accord bien avant d'être élue. Je ne me suis pas fermée, hein. J'ai essayé d'évoluer par rapport à ça, mais les réponses apportées ne m'ont pas satisfaite.
9 voix contre et 52 abstentions dans la majorité, c'est inédit. Le patron du groupe, Gilles Legendre, refuse de commenter.
Nous verrons.
Pas de quoi hurler à la fissure, estime Jean-Baptiste Djebari, député marcheur de la Haute-Vienne, qui a voté, lui, pour la ratification.
Vous savez que sur le CETA, les députés, à dominem, ont reçu quand même beaucoup de pression, beaucoup d'interpellations dans les circonscriptions, et que, de fait, ça a créé un contexte qui, peut-être, en a fragilisé certains. Par ailleurs, vous savez que nous avons des lois bioéthiques qui vont arriver, sur lesquelles nous aurons une liberté de vote, puisque le groupe en a décidé ainsi, et c'est la démocratie.
Après le vote de consigne, voici venu le temps du vote de conscience, conclut un ex-parlementaire La République En Marche, pour qui ça n'est pas dommage.
France Inter, il est 7h07, c'est le journal de Laurence Thomas, avec le D-Day pour Boris Johnson qui débarque à Downing Street.
Il deviendra donc aujourd'hui le nouveau Premier ministre britannique, jour de la consécration pour Boris Johnson. Il va remplacer Theresa May après une victoire aux allures de raz-de-marée hier face à son rival, le chef de la diplomatie britannique, Jeremy Hunt. Comme le veut la tradition, le pro-Brexit ira dans la journée rencontrer la reine Elisabeth II et elle le chargera alors de former un nouveau gouvernement. Dès hier, Boris Johnson promettait une sortie de l'Union le 31 octobre. Reste à savoir s'il pourra obtenir les concessions qu'il réclame de Bruxelles. Bruxelles qui attend Boris Johnson de pied ferme, Pierre Benazé.
Pour les Européens, l'arrivée de Boris Johnson à Downing Street, c'est le scénario catastrophe. Jusqu'à la démission de Theresa May, cette éventualité était même ici une plaisanterie de mauvais goût. Boris Johnson traîne derrière lui une réputation sulfureuse, d'abord comme correspondant de presse à Bruxelles, inventeur d'euromythes, des affabulations sur d'imaginaires normes européennes de courbure des bananes ou de taille des préservatifs. Boris Johnson a aussi la réputation récente d'un ministre des Affaires étrangères incohérent et brouillon, et son image pâtit aussi de déclarations à l'emporte-pièce, comme sa comparaison entre l'UE et le Troisième Reich. Il n'est pas considéré ici comme europhobe, on estime plutôt qu'il peut facilement changer d'avis sur tous les sujets. Mais la grande crainte des Européens, c'est surtout qu'il entraîne son pays vers un Brexit sans accord le 31 octobre, ce qui signifierait une absence de garantie pour les droits des citoyens, une situation intenable à la frontière irlandaise et une absence de règlement financier. La perspective de devoir négocier avec Boris Johnson la future relation euro-britannique donne déjà des frissons aux responsables européens. Pierre Benazet, France Inter, à Bruxelles.
À la suite de l'affaire Carlos Ghosn et de résultats catastrophiques, Nissan va supprimer plus de 10 000 emplois dans le monde. Le constructeur japonais détenu à 43,5% par Renault s'attend à réaliser sur l'exercice en cours sa plus mauvaise performance financière en 11 ans après une chute de son bénéfice d'exploitation de 28%. Nissan forme avec Renault la première alliance automobile mondiale. Les coupes pourraient concerner des usines en Amérique du Sud et dans d'autres régions où la rentabilité de Nissan est faible. Le tribunal de commerce de Strasbourg va rendre aujourd'hui son délibéré sur le plan de reprise modifié, cette fois de l'aciérie nordiste Ascoval, par le britannique Olympus, fragilisé après la faillite fin mai de British Steel.
C'est dans un an, dans 365 jours très exactement, le début des Jeux Olympiques de Tokyo.
Les JO d'été, le plus grand événement sportif du monde avec plus de 10 000 athlètes, des milliards de téléspectateurs et 34 nouveaux sports qui s'ajoutent à la famille olympique, le karaté, le breakdance et le skateboard. Ces adeptes du bitume et de la rue vont passer en mode compétition pour aller chercher des médailles et les skateurs français comptent bien être au rendez-vous. Thomas Coignac.
Lorsque le Comité international olympique a inscrit leur sport aux Jeux de Tokyo, les skateurs français ont d'abord été surpris d'être là, à l'image de Mathias Thomer.
C'était pas forcément une volonté du milieu du skate, c'était plutôt quelque chose qui a été proposé par le CIO. Les Jeux olympiques vont rafraîchir leur image. Puis nous, en tant que skateboarders, on va s'ouvrir à un public qui n'a pas du tout l'habitude de voir ce type de discipline.
Alors voilà, Mathias Thomer, bombardé entraîneur d'une équipe de France qu'il a fallu construire, là où avant, les skateurs partaient tout seuls. disputer des compétitions.
4 ans à et créer les formats et s'entraîner pour et d'avoir un staff qui corresponde à ça, savoir sur quels critères on sélectionne les skateurs.
Les skateurs sont sélectionnés pour 2 disciplines, le street où ils devront faire des figures sur des escaliers, des pentes, des rampes et le bowl, une sorte de piscine vide. Et les athlètes se sont pris au jeu comme la jeune Shani Bru, 21 ans.
Ça m'a toujours fait rêver parce que je viens de la gymnastique, j'ai fait beaucoup de sport, donc c'est quelque chose que je suivais quand même tous les 4 ans, l'été, chez moi, qui me faisait rêver et qui me donnait envie de pousser plus loin ma pratique sportive.
Il faut désormais être dans les 20 meilleurs mondiaux pour se qualifier pour les Jeux et espérer décrocher la première médaille olympique de l'histoire du skate.
Thomas Coignac. Et le mercure va continuer de monter aujourd'hui. On parle de plus de 40 degrés dans le Grand Est, 80 départements en vigilance orange, chaleur pour tout le monde et aussi pour les oiseaux. Ils souffrent de la sécheresse et de la chaleur bien plus que nous, car cela a une incidence directe sur leurs ressources alimentaires. Les oiseaux sont au régime sec depuis plusieurs semaines maintenant. Cette situation de sécheresse qui s'aggrave au fil des ans inquiète la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux. C'est le reportage en Touraine de Jean Lebré.
Vous l'avez remarqué, il n'y a pas de moustiques cette année normale. Les mares, les ornières sont à sec, aucune flaque d'eau à l'horizon. Résultat, le manque d'insectes prive les oiseaux de nourriture, comme lors de la canicule du mois dernier. Julien Présent de l'association LPO.
On avait des gens qui avaient constaté que les oiseaux étaient affamés autour de chez eux et se sont même mis à nourrir les oiseaux comme en hiver, avec de la graisse, et les mangeoires ne désemplissaient pas. Donc c'était bien la preuve qu'on avait une pénurie d'insectes. Pourquoi pas nourrir les oiseaux? Il faut mettre un récipient à bord plat, changer régulièrement, ça leur permettra à la fois de se désaltérer et aussi de prendre des bains. Ce sont des petits conseils qu'on peut donner.
Mais contre la chaleur, il n'y a pas grand-chose à faire, comme pour les martinets.
On a eu énormément d'oisillons qui ont sauté, hein, simplement de leur nid. Les martinets nichent sous les toits, il fait très chaud. On a eu vraiment une période compliquée avec beaucoup d'oisillons en détresse. On transfère tous les martinets que nous apportent les gens vers le centre de soins Sauve qui plume. Hein. Ils ont dû refuser des nouvelles arrivées parce qu'ils étaient plus capable de s'occuper des oiseaux déjà présents au centre. Je crois qu'ils ont eu jusqu'à plus de 100 martinets en soins.
Mais avec le niveau bas des eaux, les hérons, les aigrettes et autres sternes, autrement dit les oiseaux piscivores, s'en donnent à cœur joie parce que le poisson est plus facile à attraper.
Ouais, il faut quand même qu'il y ait un petit avantage en cette période de canicule pour les oiseaux combien chaud. C'était le journal de Laurence Thomas sur France Inter, 7h12. La route avec vous, Cyril Ardot, ça se charge en région parisienne, surtout à l'est.
Oui, et on commence au niveau du Bourget sur l'autoroute A1. Des difficultés à partir du Bourget jusqu'à la porte de la Chapelle au nord de Paris. Des difficultés également sur l'A3 entre Gonesse et Nozilsec et puis sur l'A86 dans les deux sens entre Nogent-sur-Marne et Rosny-sous-Bois. Et puis enfin, quelques ralentissements au niveau du tunnel de Champigny sur l'autoroute A4. Ailleurs en France, vous roulez plutôt bien. Je vous rappelle que la circulation différenciée est mise en place à Paris et Lyon, et ainsi que Annecy et Lille à partir d'aujourd'hui. À Paris, il faudra une vignette entre 0 et 2 pour pouvoir circuler. Dans les autres villes, c'est une vignette entre 0 et 3.